Avocat à la barre.
Alors, je procède à la lecture du verdict.
Avec François-David Bernier.
Les meilleures plaidoiries que vous entendrez.
Cube Radio.
On vient d'entendre Mathieu Lévesque, là, qui est le député de Chapleau, adjoint parlementaire du ministre de la Justice, sur cet investissement-là de 71 millions de dollars pour lutter contre la violence conjugale. On veut mieux accompagner les victimes. Évidemment, il y a un fléau à enrayer, on le voit ces temps-ci, avec beaucoup de féminicides. Et on investit du côté du DPCP, procureur de la Couronne. On investit aussi du côté policier. Et là, on voulait analyser là, un peu c'est quoi les améliorations que ça apporte, comment ça se passait auparavant également. Et on en parle avec Maître René Verret, qui a été longtemps procureur de la Couronne, qui est maintenant à la Défense, qui est avec nous. Bonjour, Maître Verret.
Bonjour.
Comment vous voyez ça? Là, on semble voir agir dans ce domaine-là, parce qu'il y a des problèmes là, avec la violence conjugale au Québec.
D'après ce que j'ai pu lire ce matin, d'abord, il y a deux choses très importantes. Il y a des budgets additionnels qui vont être consacrés notamment au travail des policiers, concernant l'intervention des policiers avec les victimes de violences conjugales. Ça, c'est un. Mm-hmm. De deux, j'ai appris aussi qu'on allait augmenter les budgets au niveau du DPCP pour faire en sorte qu'il allait y avoir de nouveaux postes, donc des gens qui vont être dédiés, qui vont s'occuper exclusivement de ces dossiers-là. C'est excellent aussi. Alors qu'on sait malheureusement à quel point les procureurs sont encore évidemment très, très concernés par le fardeau de travail qui est le leur. Alors, le fait d'avoir de nouveaux budgets, de nouveaux procureurs qui vont joindre à eux, ça va être un plus pour effectivement toutes les victimes de violences conjugales. C'est une très bonne chose.
Mm-hmm. Parce que quand vous étiez à la Couronne, là, il semble qu'auparavant, il n'y avait pas nécessairement le même procureur au dossier là, tout au long du dossier là, avec les victimes de violences conjugales.
Ça dépendait, je vous dirais, des districts. À Québec, effectivement, on avait la poursuite verticale établie depuis longtemps. Mais ce qui est bien avec l'annonce d'aujourd'hui, c'est qu'on a consacré ça quand même comme étant une mesure qui allait s'appliquer dans tous ces dossiers-là. Mm-hmm. C'est donc fondamental. Donc, pour ces dossiers-là, la victime va donc s'adresser à un seul procureur pendant tout le temps des procédures. C'est une très bonne chose. Plutôt que d'avoir affaire à un et deux et trois procureurs dans le dossier, c'est donc une très bonne chose qu'on ait établi le principe qu'une victime puisse s'adresser à une seule personne.
C'est plus rassurant.
Absolument, de façon à établir aussi un lien de confiance, de façon aussi à ce que, justement, il puisse y avoir un lien entre le procureur et la plaignante. Ça sera évidemment beaucoup plus facile pour les victimes.
OK. Et souvent... Pardon. Souvent, on entend dans le domaine de la violence conjugale là, des personnes qui vont vivre la violence conjugale, beaucoup de difficultés à dénoncer parce qu'évidemment, souvent, ils aiment leur agresseur, mais ils n'aiment pas ce côté-là là, de violence. Et il faut qu'ils sortent de là, comme on dit en bon québécois. Mais est-ce que c'est difficile à gérer avec ces victimes-là? C'est pas rare qu'on voit des victimes qui se rétractent, qui veulent pas témoigner contre, ça peut être leur mari ou leur conjoint. Là.
Ben, c'est effectivement très difficile parce qu'on le sait, ces femmes-là sont malheureusement très souvent dans une position de vulnérabilité très importante du fait qu'ils sont malheureusement pas en moyen effectivement d'exercer tous leurs recours et tous leurs droits. Alors, c'est pour ça qu'effectivement, je pense que le fait d'avoir davantage de personnes qui vont leur venir en aide du côté des policiers, du côté des procureurs, ça va les rassurer, ça va faire en sorte que on va les encadrer, on va les assister davantage, comme effectivement on doit le faire.
Mm-hmm. Et est-ce que il y a cette portion-là, on a vu beaucoup de féminicides, puis souvent, bon, les policiers au départ avaient des difficultés à intervenir parce qu'il n'y avait pas eu de crimes encore de commis, mais on sentait ça venait. Est-ce que les procureurs de la Couronne, quand ils sont à un dossier, c'est un élément qu'ils doivent considérer, essayer de protéger les présumées victimes?
Bien, c'est une grande préoccupation pour les procureurs, mais évidemment, comme vous le dites aussi, on va aussi du côté policier rechercher, voir s'il n'y a pas des preuves indépendantes. On va souvent interroger donc les voisins, les amis, les gens dans l'entourage. L'important dans ces dossiers-là, c'est de tenter d'obtenir des preuves additionnelles, des preuves indépendantes, parce qu'on le sait malheureusement, les victimes, dû à leur situation très difficile, très, très délicate, ben, c'est pas toujours facile, effectivement, pour la poursuite de remplir son fardeau au procès. Mm-hmm. C'est pour ça que dans la mesure du possible, et surtout s'il y a plus d'énergie et de budget consacré aux enquêtes, peut-être qu'on sera en mesure d'obtenir des enquêtes plus complètes pour les victimes de violences conjugales.
OK. Parce que aussi, si la victime change... Je veux dire, quand vous avez un dossier, là, vous le dites bien, vous essayez d'aller chercher d'autres preuves, mais si la victime dit, moi, non, je veux plus témoigner contre... je donne l'exemple, mon conjoint, mon mari, c'est plus fréquent que c'est des hommes, là, on se cachera pas de ça. Ça devient très difficile pour un procureur de mener à bien son dossier, là.
C'est effectivement difficile dans la mesure où, justement, si la preuve ou si le témoignage de la plaignante n'est pas corroboré par une autre preuve, c'est évidemment très difficile parce que le procureur est conscient de son fardeau d'établir hors de tout raisonnable la culpabilité de l'accusé. Alors, dans la mesure où la victime, due à sa situation et tout ça, n'est pas en mesure de témoigner ou a beaucoup de réticence à témoigner, c'est certain que ça place la poursuite dans une position plus défavorable. Donc, malheureusement, dans ces cas-là, souvent, on essaie de régler le dossier par d'une autre façon, notamment par l'émission de mandat de paix. On le sait que souvent, dans ces cas-là, il y a des règlements de cette façon-là.
Mm-hmm. Mais il y a quand même des dispositions. Il y a un procureur au DPCP peut quand même, malgré que la victime se rétracte, peut quand même continuer la poursuite. Là, ça arrive, ça, j'imagine. Ben,
vous avez raison, mais pour ça, il faut qu'il y ait des preuves indépendantes, des preuves autres que le témoignage de la plaignante. S'il n'y a pas d'autres preuves, malheureusement, on ne pourra pas continuer les procédures. Mais effectivement, c'est pour ça que, dans la mesure du possible, on tente d'obtenir des preuves additionnelles. Mais ça peut être aussi les blessures de la victime constatées par des témoins, des policiers ou par un rapport médical qui l'établissent. Okay. C'est pour ça que, en autant que possible, on tente d'obtenir des preuves additionnelles qui vont corroborer le témoignage de la plaignante lorsque celle-ci, placée dans une situation difficile, n'est pas en mesure de témoigner.
Mm-hmm. Parlons maintenant des fameux témoignages des victimes, des fameux contre-interrogatoires qui peuvent être musclés. Est-ce que c'est vrai que la part des victimes, c'est un peu leur appréhension du procès de devoir être contre-interrogé devant leur agresseur potentiel?
Ben, c'est certain qu'effectivement, pour une femme qui n'a jamais eu affaire à la justice, de se retrouver dans une salle de cour avec un juge, des avocats et tout ça, c'est impressionnant, c'est intimidant. Alors, c'est bien sûr que c'est pas un climat qui est très, très favorable, très agréable pour une victime, on peut le comprendre. Alors, c'est pour ça que, justement, le fait qu'on adopte des mesures pour offrir davantage d'assistance et davantage de support aux victimes, ça va les aider. Donc, effectivement, ça va être important. Donc, d'avoir des gens qui vont être plus disponibles, qui vont avoir plus de temps pour justement les assister, les encadrer, les rencontrer, les rassurer surtout par rapport au témoignage qu'ils doivent rendre devant le tribunal.
Mm-hmm. Parce que Maître Verret, ça se prépare un témoignage.
C'est clair. Okay. Comme dans tout procès, effectivement, les témoins se préparent. C'est pour ça que ces victimes-là, il y a un besoin peut-être encore plus grand de les préparer dû à leur situation de vulnérabilité. Alors, c'est pour ça que c'est important, oui, de les rencontrer, de les préparer, de les rassurer. Rassurer, je pense que c'est le terme qui est adéquat. Mm-hmm. Il faut les rassurer, leur dire qu'effectivement, elles vont être bien traitées, qu'on va les respecter, puis qu'effectivement, les procureurs et les policiers qui seront présents vont être là justement pour les assister.
Mm-hmm. Et c'est quoi la ligne du contre-interrogatoire? Parce que bon, il y en a qui, on voit dans les films, des fois, ils vont dans des zones où est-ce que on est pratiquement en train de traiter la victime d'avoir commis des gestes. Est-ce que les juges sont plus avisés maintenant de pas franchir une ligne?
Absolument, on le voit de plus en plus. Les juges interviennent davantage et ne tolèrent pas des comportements inacceptables des avocats. Mm-hmm. Alors, il y a une limite, effectivement. Le droit au contre-interrogatoire, c'est une chose, mais il y a une limite dans la mesure où il faut que les avocats le fassent en respect toujours de la personne qui témoigne. Alors, les juges interviennent davantage de façon justement à ce que les gens puissent témoigner librement, volontairement, de façon franche et honnête. Alors, c'est pour ça que lorsqu'il y a des débordements, lorsque les avocats qui exagèrent, les juges interviennent rapidement.
OK. Bon, c'est quand même rassurant d'entendre ça. Et advenant, est-ce qu'il y a des moyens, là, si vraiment une victime là, se dit incapable de témoigner devant son agresseur. Est-ce qu'il y a des moyens pour la protéger? Parce que je pense dans tout ça, on parlait peut-être de faire des témoignages dans une salle à part ou avec des paravents. Est-ce que c'est possible de faire ça? Est-ce que ou si ça porte atteinte au droit à une défense pleine et entière de la personne qui est accusée?
C'est surtout les dispositions qui sont prévues pour les enfants mineurs, mais dans certains cas, effectivement, ça peut être envisageable, mais c'est plus difficile, c'est plus exceptionnel.
OK, c'est plus exceptionnel. La règle, ouais. C'est il faut justement, d'où la préparation, être capable de se retrouver et de se faire contre-interroger. Là.
Voilà.
OK, je comprends bien. J'imagine qu'on voit ça d'un bon augure, là, tous ces investissements-là, puis que on pourra améliorer. Est-ce que, Madverez, est-ce que vous pensez que c'est suffisant ou si on embauche d'autres procureurs?
Ben, c'est un grand pas, effectivement, pour aider ces femmes-là à ce qu'ils aient une assistance et un encadrement plus important. Alors, c'est un pas dans la bonne direction. Je pense qu'il faut saluer effectivement cette décision qui a été prise d'accorder plus de ressources à la fois aux policiers et à la fois aux procureurs. Alors, je pense qu'effectivement, tout ça va militer pour le bien-être des victimes de violences conjugales.
Très intéressant. Merci beaucoup, Maître René Verret. On se reparlera pour un autre dossier.
Merci. Au revoir.
Au revoir.